La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Hackerspace, Fab Labs, Hack Labs et autres garages ou friches transformées en espaces de coworking fleurissent aux quatre coins des villes et parfois même des campagnes de toute la planète. Phénomène de mode ou pointe avancée d'une profonde transformation encore à venir du monde du travail? Eh bien, pour répondre à la question, trois sociologues ont mené une enquête internationale des États-Unis au Sénégal, de la France surtout à l'Allemagne. Et deux de ces trois sociologues sont aujourd'hui les invités de la suite dans les idées. Et dans la seconde partie de l'émission, nous serons rejoints par un designer, Jean-Louis Fréchin, de l'agence No Design, qui connaît bien ce monde des makers, parce qu'il est un makers depuis bien longtemps, depuis avant sans doute qu'on utilise aussi largement ce mot en tout cas. Alors bonjour Michel Lallemand.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, sociologue, et bonjour Isabelle Berryby-Hoffmann, vous êtes aussi sociologue, vous êtes chercheuse au CNRS.
Bonjour.
Et avec Marie-Christine Bureau, qui est également sociologue, tous les trois, vous co-signez un livre, Makers, enquête sur les laboratoires du changement social, qui paraît aux éditions du Seuil. Michel Lallemand, ce n'est pas une surprise, parce qu'on vous doit un livre paru il y a 3 ans sur cet univers que vous aviez découvert à l'époque en Californie, une enquête que vous aviez menée à San Francisco. Vous étiez venu dans cette émission en parler et vous avez poursuivi le travail. Vous vous êtes en particulier intéressé à ce qui se passe en France, et pour pouvoir bien prendre la mesure de ce qui se passe en France, vous avez également procédé à quelques comparaisons internationales avec d'autres pays que je citais rapidement. Alors, l'enjeu derrière tout ça, peut-être faut-il le rappeler, c'est que vous êtes un sociologue du travail. Vous avez beaucoup observé la manière dont le travail se transformait, et c'est bien de ça qu'il s'agit. La question est de savoir si ce qui se passe dans ces lieux, qui restent encore très marginaux, très, très minoritaires par rapport à ce qu'on appelle le monde du travail, relève d'un feu de paille, d'un énième phénomène lié à la transformation numérique qui aura disparu d'ici quelques mois, ou bien s'agit-il de quelque chose qui traduit au fond un changement dans l'économie du travail, l'économie entendue au sens le plus large du terme. C'est vrai que c'est un domaine sur lequel on peut lire énormément de choses et des choses qui entendent être d'une certaine façon performatives. Il y a beaucoup de choses qui relèvent du manifeste, de la proclamation, et qui entendent, ne serait-ce qu'en utilisant des mots nouveaux, dire cette réalité nouvelle. Alors évidemment, quand on est sociologue, on est un peu dubitatif, on est prudent en tout cas, et on ne sait pas mieux faire que d'aller y voir sur le terrain et de faire, en l'occurrence, de la sociologie, c'est-à-dire de faire une enquête, Michel Lallemand.
Oui, merci pour ce résumé. Donc, la première chose à dire, c'est que, en fait, nous sommes à trois depuis le début à travailler sur ces sujets-là. On a entamé ce programme de recherche collectif avec Isabelle Berryby-Hoffmann et Marie-Christine Bureau au début des années 2010. J'ai eu l'occasion de faire un terrain particulier qui avait donné lieu à l'apparition d'un ouvrage. Nous avons travaillé ensemble de façon complètement paritaire, hein, sur ce thème-là, et cet ouvrage, Makers, au fond, est le résultat d'un travail collectif entrepris de longue date, et la dimension internationale, du coup, n'est pas surprenante, hein. Donc, comme vous le disiez, il y a beaucoup de terrains français, il y a des terrains américains, mais Isabelle Berryby-Hoffmann pourra en parler mieux que moi, et des terrains allemands. Alors, il est vrai que dès qu'il y a des formes de nouveautés qui apparaissent, ça prend des tournures qui peuvent être parfois, a priori, extrêmement opposées, de façon presque surprenante. Juste pour être sur ce terrain des makers, il me semble qu'il y a deux figures qui représentent bien les enjeux en cours avec ces bricolages que représentent les makers dans leur pratique. Il y a un philosophe, André Gorz, que tout le monde connaît, qui très tôt a repéré l'émergence de ce mouvement et voyait à travers le mouvement maker une voie possible de sortie du capitalisme. Donc on voit bien que l'option qui a été prise très tôt par Gorz, c'était d'essayer de prendre au sérieux des gens qui bricolent en dehors des entreprises pour pouvoir imaginer un autre rapport au travail, un autre rapport rapport à la technique pour créer des formes de production, disons, en circuit court, avec une volonté d'autonomie très forte, etc. Donc ça, c'est une première option, pourrait-on dire presque libertaire, qui est au cœur de ce mouvement. Et puis, il y a une deuxième option, qui est bien incarnée par un auteur américain qui a signé aussi un livre qui s'appelle Makers, mais avec un sous-titre différent, et qui, lui, fait du mouvement Maker un levier vers plus de libéralisme pour nous transformer tous en petits entrepreneurs. Donc on voit que les enjeux, au fond, sont extrêmement forts, parce que c'est rien moins que changer presque de système productif à travers ce mouvement Maker dont il est question ici.
Isabelle Berry-Bioffmann, à la fois il y a nouveauté, Michel oui. Allemand vient d'en parler, et en même temps ça s'inscrit dans le temps long, pas seulement celui de André Gortz au début oui. du XXIe siècle, mais vous commencez ce livre avec un rappel du mouvement Shaker. On pourrait revenir à ce qui s'est passé en Californie dans les années 60, relire les livres de Fred mm-hmm. Turner par exemple. Il y a une généalogie à faire avant de véritablement comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, je vous suis tout à fait quand vous dites que c'est difficile de parler du nouveau, qu'il y a des énoncés performatifs. Mais moi, j'ai envie de dire, à partir du monde maker, c'est le contraire du dire, c'est faire. C'est faire, c'est dire. C'est-à-dire que par le faire, les makers essayent d'avoir un discours ou une portée politique. Michel vient de le rappeler. Donc, énoncé performatif, pourquoi vous le disiez auparavant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de discours qui font partie de ces mondes-là. Alors, je voudrais juste rappeler que, par exemple, la sharing economy, l'économie du partage, on a complètement oublié le terme. Il est apparu en 2004. En 2008-2009, il y a eu Airbnb et Uber, c'est-à-dire une économie de plateforme capitaliste qui a récupéré l'économie du partage, la consommation du partage gratuite. Et tout d'un coup, on est passé dans un autre sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous amenait cette économie numérique, cette économie digitale? Est-ce que c'était plus de capitalisme? C'est exactement ce que vient de dire Michel. Et nous, on s'est intéressé aux makerspace et aux makers parce que finalement, ils avaient gardé quelque chose d'une forme d'organisation et d'une forme de production qui relevait de l'économie du partage d'origine. Donc effectivement, il faut faire de l'histoire, même depuis les années 2000, même avec les termes qui nous sont apparus, économie collaborative, digitale, etc., on le fait dans le livre et on a souhaité remonter beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin parce que, effectivement, on est face à un mouvement qui est complètement transnational, avec une démultiplication de lieux qui sont des open space, qui produisent, qui affirment qu'ils vont faire la troisième révolution industrielle et changer la production et voire permettre la sortie du capitalisme ou en tout cas de la société de consommation de masse. Et en même temps, on retrouve le do-it-yourself, le faire par soi-même, depuis plusieurs siècles. Et vous citiez les Shakers, qui est une secte protestante menée par une femme, Anne Lee, en Angleterre en 1773. Sous la répression, elle prend un bateau, elle part avec quelques personnes aux États-Unis, arrive sur la côte est américaine, fonde une communauté qui fonctionne en autarcie complète, qui crée des meubles, qui crée de la culture et qui va se développer et laisser des traces, en fait, très fortes dans la culture américaine. Ensuite, le mouvement Arts and Craft va prendre la suite. Le Massachusetts, quand on va au MIT aujourd'hui, les meubles, l'ameublement, la culture autour gardent des traces de ce moment-là. Et c'est au MIT également, par exemple, qu'on va retrouver les premiers grands makerspaces à Cambridge, dans la région de Boston. Il y a aujourd'hui 147 makerspaces, rien qu'à l'intérieur du MIT.
On sait que cette culture, elle est très présente dans l'histoire culturelle américaine. En vous relisant, je pensais à ce que le leader d'un groupe comme Talking Heads, comme musicien David Byrne, a pu dire de ce qu'il devait au mouvement Shaker, lui qui a été élevé dans une famille Shaker et qui a fait une école d'art à Providence qui est très connue et qui a fait que ce qu'il a inventé dans la musique aussi relève de ce dont il a hérité, je pense, dans cette socialisation enfantine. On pourrait trouver des exemples en Grande-Bretagne du côté de l'héritage de William Morris, de beaucoup de choses. Qu'en est-il de la France de ce point de vue-là? Parce que vous êtes intéressé plus spécialement dans cette enquête à la France, mais est-ce qu'on peut retrouver des traces aussi en France d'une histoire qui ressemblerait un petit peu à ces deux-là que je viens de citer, côté américain, côté anglais?
Oui, en France, on n'a pas la tradition du puritanisme protestant qui est venue irriguer cette façon de faire qu'Isabelle évoquait à l'instant. Je rappelle juste que les Shakers sont aussi des inventeurs et c'est pour ça qu'il y a une parenté extrêmement forte. On leur doit la pince à linge, par exemple, ou la chaise à bascule. Donc, cette alliance entre le geste du travail bien fait, l'exigence esthétique et l'innovation est vraiment ancienne. Alors, en France, on a travaillé sur un mouvement dont, enfin, pour les gens de notre génération, on peut être encore en mémoire. Vous savez, c'est le fameux mouvement qui a promu le bricolage après-guerre, et dont l'une des figures emblématiques était le magazine System D. Et donc, ce magazine System D, on en parle hein, dans le livre, on a été travaillé sur l'ensemble du fonds qui est disponible encore dans les archives. À un moment donné, dans une période de reconstruction française, va faire appel, justement, à l'ingéniosité, à la capacité de bricole de l'ensemble des Français, mais avec une vision très sexuée des choses, quand même, hein, parce que System D, c'était quand même avant tout pour les hommes. Et on a eu la version féminine qui nous vient de Belgique, avec Modes et Travaux, Femmes d'aujourd'hui, etc., qui était d'abord plutôt ciblé sur des femmes de classe moyenne, mais avec cette même philosophie, c'est qu'on bricole soi-même à la maison. Et la chose amusante, c'est que dès 59, on voit apparaître un monsieur qui s'appelle Bernard Hivernel, si ma mémoire est bonne, qui va promouvoir le « faites-le vous-même » en français. Hein. Et en 65, il y a une association de responsables, de magasins spécialisés dans la calcaire, l'outillage, etc., qui crée une association qui est l'Association nationale pour la promotion du « faites-le vous-même ». Donc, 65. Hein. Et ça va donner lieu à un réseau coopératif, à des grandes chaînes de magasins. Donc il y a une tradition qui existe déjà. Et la chose intéressante par rapport aux makers, c'est que souvent, le reproche qu'il aurait fait, c'est finalement de servir les grands intérêts économiques, etc. Mais au fond, cet esprit du faites-le vous-même vient déjà de toute une série d'acteurs du monde marchand qui ont promu très tôt, dans les années 60, cet esprit du faites-le vous-même.
Alors là, on a rappelé qu'il y avait des racines, une généalogie à ce phénomène, mais il y a aussi une dimension de nouveauté qui est évidemment liée, Isabelle Berryby-Hoffmann, à ce qu'on appelle la mutation numérique en particulier, à des transformations technologiques, par exemple, à des nouvelles machines qui sont apparues, à beaucoup
l'imprimante
de choses.
3D, en particulier, qui a fait beaucoup de bruit et qui est un emblème du monde maker. Tout à fait. En fait, si on veut résumer, mais de façon assez lapidaire, ce qu'il y a de nouveau dans cette quatrième vague, ce qu'on appelait la quatrième vague du do-it-yourself, c'est qu'en fait, le monde numérique, à partir de 95, Internet, a une promesse très forte, c'était de digitaliser tout ce qui était matériel. C'est le fameux Bits and Atoms, Nicolas Negron-Ponté en 95, Bing Digital, ce livre culte. On va transformer, digitaliser tout ce qui peut l'être. Plus de livres papier, plus de supports de films matériels, etc., etc. Ce que font les makers, c'est démontrer que l'inverse est possible. C'est-à-dire qu'on peut rematérialiser la culture numérique. Ce sont des artisans manuels qui travaillent manuellement le bois, qui construisent des objets, qui font l'inverse de l'Internet des objets, l'inverse de toutes les peurs et les promesses qu'on a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le monde virtuel qui se substitue à l'humain, qui remettent la main, comme disait Richard Sennett, au cœur et l'humain au cœur du numérique, et en essayant donc de retransformer les bits en atoms. C'est un mouvement qui, comme tous les mouvements liés au numérique, est transnational, mondial, et qui a une puissance d'action grâce à ça. En même temps, les lieux sont très locaux. Ils font du développement local, on retrouve de l'économie sociale et solidaire en France, de l'université populaire, de l'éducation, de l'apprentissage par le faire, par le projet. Et en même temps, ça touche à Seymour Papert, le constructionnisme, les débuts du MIT, c'est-à-dire l'idée de transformer l'éducation, de transformer l'apprentissage en arrêtant la hiérarchie entre les savoirs abstraits et les savoirs concrets. C'est l'adage du MIT. Et donc, en remettant le projet, le corps, au cœur de tous les apprentissages, y compris la haute culture numérique. Ce qui est nouveau, c'est ça, c'est les atoms à la place des bits, le transnational, du local global, des mouvements qui utilisent la puissance d'Internet, la puissance du digital, la puissance du monde du libre, de l'open source, pour en fait faire redescendre cette puissance au niveau de l'humain. D'où la fabrication personnelle, d'où l'autarcie, la possibilité de construire sa propre maison, de sortir du marché et d'être autonome. Et là, on retrouve, encore une fois, la philosophie ancienne d'un Henri David Thoreau, par exemple, qui allait dans les bois construire sa petite maison en 1830 ou 40. Voilà.
Alors, on comprend bien la réaction. C'est complexe. C'est pas contre le numérique, c'est pas contre le digital, c'est tout contre. Ça s'en sert beaucoup, mais pour proposer des prolongements, des développements autres que ceux qui sont purement immatériels, purement digital au sens de la numérisation, comme vous venez de l'expliquer. Mais est-ce qu'on peut pas l'interpréter aussi, ce mouvement vers le faire, comme une réaction un certain type de développement de l'économie en général qui a eu tendance peut-être à oublier la production, tout simplement. C'est-à-dire que on a vu l'économie se développer avec des fonctions dérivées, des fonctions secondes, qu'il s'agisse de la finance, qu'il s'agisse du marketing, qu'il s'agisse des ressources humaines, qu'il s'agisse de la communication. Et puis, on a oublié que au cœur de tout ça, il fallait quand même fabriquer des choses. Est-ce qu'on peut pas là trouver une clé aussi dans cette envie de remettre le fer au cœur de l'économie, tout simplement, Michel Lallemand?
Oui, c'est une des thèses qu'on essaye de soutenir dans le livre. Et justement, si on ouvre l'ouvrage par une mise en perspective historique, c'est notamment pour souligner que ces volontés de redonner du sens dans le travail, elle apparaît dans des moments d'évolution cruciaux du capitalisme. George Friedman, qui était un des grands observateurs du taylorisme, parlait de loisirs actifs pour justement désigner ces capacités qu'avaient les ouvriers et plus généralement les salariés à redonner du sens à partir de bricolage ingénieux, qui étaient déjà des formes de do-it-yourself. Et c'était une façon de protester en quelque sorte face à un abrutissement au travail. Alors aujourd'hui, le travail a bien changé, et c'est vrai que depuis quelques décennies, on a deux nouvelles formes de rationalisation du travail qui partagent, si j'ose dire, avec la tradition maker, une volonté d'autonomie, puisque l'autonomie a été une des étendards du management moderne, mais accompagnée souvent d'une forme de pression extrêmement forte sur les salariés pour pouvoir répondre aux clients, être dans les temps, faire de la qualité, etc. Et ce qu'apporte le mouvement Maker, c'est la capacité réellement de travailler en toute autonomie, en se sortant de tous les jeux de pression institutionnels, à commencer par celui du marché. Et c'est ça qui est intéressant dans les makerspace, c'est qu'on voit des gens bricolés, qui redonnent du sens au travail, avec un rapport à la matière, et donc on redonne du sens à la fabrication, mais sans que forcément le travail soit immédiatement finalisé par une commande client ou par tout un enjeu, des enjeux de marchand. Donc notre thèse, c'est de dire, c'est que là, on a une alternative qui se joue face aux formes d'organisation dominante néo-taylorienne du travail, et qu'à ce titre, ça vaut le coup de prendre les choses au sérieux.
Alors, Isabelle Berryby-Hoffmann, peut-être on peut en venir aussi concrètement aux résultats de cette enquête. Qu'est-ce que vous avez découvert en poussant les portes de ces lieux en France qui sont installés dans les villes, mais parfois aussi à la campagne? Est-ce que ces lieux se ressemblent les uns les autres? Qui les habite? Qui les anime? Comment ils sont organisés? Tout ça, ce sont les questions que vous vous êtes posées et auxquelles vous apportez des réponses avec cette enquête.
Alors, on a vu une trentaine de lieux, une vingtaine en France, mais aussi, comme on essayait d'étudier un monde social, des lieux transnationaux, des maker fairs, des congrès, etc. Est-ce qu'ils se ressemblent ? Il y a une diversité, bien sûr, dès qu'on rentre à un niveau un plus micro. Il y a une diversité par pays, il y a une diversité par dans une courbe de philosophie. Certains sont plus près de la philosophie hacker, d'autres plus près de l'éducation populaire, par exemple, ou de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a une grande diversité, mais il y a en commun ces grands espaces ou ces espaces ouverts avec le libre accès aux machines, une philosophie du partage. Les plus connus des makerspaces, ce sont les Fab Labs. En fait, il y en a environ 300, entre 600, on a du mal à compter en France. Ils se développent très, très vite. Toutes les villes moyennes, à peu près, ou grandes villes sont équipées aujourd'hui. Alors, on y trouve surtout des trentenaires hommes, c'est vrai, mais pas que. Des gens qui font du textile, des gens qui réparent des vélos, des gens qui font de l'open design, des gens qui font de la formation à la culture numérique et aux outils numériques. Et l'une des choses qui nous a intéressés, c'est qu'en fait, toute une série d'outils qu'on retrouve dans le management aujourd'hui, dans l'entreprise, qui sont cités même par notre gouvernement, les hackathons, des outils collaboratifs, les wikis, les EHPAD, sont en fait le cœur du travail collaboratif qu'on rencontre dans les makerspaces. Donc vous avez d'un côté des machines, d'un côté des gens qui viennent là bricoler, des ingénieurs, des jeunes, des étudiants, des designers, des élèves d'école d'art, des gens du quartier aussi parfois, des gens qui font de la récupération dans l'économie solidaire, qui achètent des meubles chez Emmaüs et qui viennent les réparer là, ou le commerçant du coin qui vient construire son bar à moins cher. On a raconté l'histoire de Nicolas Huchet qui avait perdu une main dans un accident et qui est venu là se bricoler une prothèse de main pour 200 euros à partir de phalanges et de fils de pêche avec l'aide des makers locaux, alors qu'une prothèse de main, ça vaut entre 20 000 et 60 000 euros. Donc, vous rencontrez toute une série de gens. Après, on peut discuter des modes d'organisation, du modèle économique. Il y a plusieurs échelles, en fait, pour comprendre ce qui se passe. Mais je voudrais faire juste une petite remarque. C'est-à-dire qu'on a été un peu ébranlés, nous-mêmes, quand on est arrivé là, dans ces lieux, on s'est dit, bon, ouais, qu'est-ce qui se passe? Le mouvement maker, d'un côté, ça a l'air extraordinaire. Ben là, on a des lieux, des open space traditionnels, quelques machines. Qu'est-ce qui se passe de particulier? En fait, ça nous a poussé, en réfléchissant sur ces terrains, ça nous a poussé à comprendre qu'il fallait retravailler sur nos catégories de séparation ou des dichotomies qu'on a pour évaluer ou pour comprendre le travail aujourd'hui. La séparation travail-loisir, la séparation production-consommation, la séparation vie privée, vie professionnelle. Toutes ces choses dont on sait qu'elles sont remises en cause depuis longtemps, en fait, dans les makerspaces, on les a vues au travail. C'est-à-dire, on a vu se construire des organisations, des modes de travail, des rapports au travail et des modes d'organisation qui cassent ces dichotomies-là. Voilà pour une première réponse.
Michel Allemand, il y a une spécificité française que vous soulignez, c'est le rôle important, plus important qu'ailleurs, des pouvoirs publics.
Oui, ça c'est une chose qui saute aux yeux lorsqu'on a fait nos enquêtes aux États-Unis. Isabelle a beaucoup travaillé sur la côte Est. Et lorsqu'on compare les modes d'organisation de ces lieux, qu'on a du mal à nommer, parce qu'au sein même du mouvement maker, tout le monde n'utilise pas les mêmes dénominations.
Il y a un chapitre qui est consacré à cette question des noms.
Oui, c'est une lutte sociale à part entière, de savoir comment se nommer.
Aujourd'hui.
Ouais. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Mais par-delà ces enjeux-là, ce qui est très frappant, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, il y a une farouche volonté d'indépendance de la part de ces lieux qui, dans une tradition américaine, refusent toute forme de soutien financier au nom de l'indépendance, de l'autonomie, etc.
C'est légal, c'est pareil.
Oui. Et alors qu'en France, ce qui nous a beaucoup frappé dans notre enquête, c'est que la quasi-intégralité des lieux dispose de ressources financières qui sont allouées par les pouvoirs publics. Que ça soit par le fait de par le fait de locaux qui sont mis à disposition de collectifs, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser un problème. Et dans le livre, on raconte un épisode qui est le moment où, donc c'était à l'époque où Arnaud de Montebourg était ministre du redressement productif, le phénomène des Fab Labs commençait à apparaître. Et donc les pouvoirs publics français ont voulu aider, au nom du soutien à l'innovation, ces mouvements-là. Simplement, la seule exigence, c'était d'avoir un interlocuteur unique pour pouvoir mettre en place une politique de soutien à l'innovation. Et donc, sous la pression, toute une série de Fab Labs français se sont organisés dans une espèce de coordination qui s'appelait InterFab Lab. Et ils ont répondu à l'appel d'offres qui a été proposé par le ministère. Sauf que la moitié d'entre eux n'ont pas eu l'argent qui était promis par le ministère et ça fait éclater complètement le collectif qui s'était constitué. Donc il y a eu une espèce de paradoxe à cette volonté de soutien des pouvoirs publics dans des univers qui revendiquent avant tout une démarche qui part du bas, de l'organisation par le bas, de façon horizontale, etc., avec des formes de coordination souples, c'est que ça, pendant 3 ans, ça a fait éclater complètement la possibilité de coordonner ces espaces indépendants les uns des autres.
Isabelle Berryby-Hoffmann, tout à l'heure, vous preniez l'exemple de l'économie du partage comme celui d'une sorte de naufrage, au fond, ou d'une récupération, en tout le cas, par des très grandes entreprises, par des plateformes. Ça pose la question, dans ces économies des makers, de la distribution, qui me semble particulièrement difficile, sauf à se cantonner à un espace géographique extrêmement limité. Parce que fabriquer des choses, c'est important, c'est bien, mais les mettre sur le marché ou les mettre dans une relation d'échange, c'est souvent beaucoup plus compliqué et ça nécessite des moyens très très puissants, que ce soit des moyens technologiques ou des moyens financiers.
On peut prendre la question comme vous la posez, mais moi je la reformulerais autrement, c'est-à-dire que à la base du mouvement maker, il y a quand même l'idée de la fabrication personnelle et de la relocalisation de l'économie. Donc ça s'inscrit de façon très forte avec une homologie avec l'économie circulaire, par exemple. Donc effectivement, si on prend une ville comme Barcelone, qui dans son plan de ville a mis l'accent sur les Fab Labs, sur les lieux, les tiers-lieux, sur les makerspaces, l'idée est de mettre en réseau dans un espace local suffisamment de lieux pour qu'une économie circulaire puisse s'organiser. Le cas des maisons à 10 000 dollars, est clair. Vous avez pour ça besoin d'une scierie.
C'est-à-dire qu'on peut construire sa maison pour 10 000 dollars.
Pour 10 000 dollars, vous avez besoin d'acheter du bois, donc d'une scierie qui n'est pas loin. Vous avez besoin de plans, d'architectes en libre, de l'open design, qui sont sur le net, donc dans ces lieux-là. Et vous avez besoin d'un makerspace pour découper les planches, les assembler, et vous avez besoin d'un copain ou d'une copine. Il faut être deux pour construire une maison de 100 mètres carrés aujourd'hui. C'est un mouvement des tiny houses qui se développe de façon très rapide aux États-Unis, dans des villes très chères, donc la région de San Francisco, d'Austin, etc. Le mouvement est très fort. Les open houses aussi, avec le mouvement de l'open design, se développe en alliant esthétique et mouvement technologique. Donc la question de la distribution, il faut la recadrer. Il faut la reposer dans des formes d'économie où justement le mouvement souhaite sortir de distribution très forte. Et puis, il y a tout un débat productif aujourd'hui autour de l'usine du futur qui est tout autour de toutes petites quantités. Toutes petites quantités qui peuvent être produites à proximité. On n'a pas beaucoup creusé ce champ parce que là, ce serait un bouquin d'économie qu'on aurait écrit et d'économie internationale. Mais aujourd'hui, les réflexions sur l'usine du futur sont des réflexions qui ne tiennent plus compte d'une distribution mondiale ou d'une grande distribution. Le scaling, c'est-à-dire le passage à la production à échelle, est en soi remis en cause. Amazon se met à produire des vêtements qui relèvent de la fabrication personnelle. Nike vous propose aujourd'hui des chaussures personnalisées. Vous faites du do-it-yourself pour les désigner. Donc il y a de la récupération, il y a des liens, mais le mouvement n'est pas vers de la distribution et de la consommation de masse à plus grande échelle.
Il y a une autre dimension, on aura à peine le temps de l'aborder, on va peut-être y revenir dans la deuxième partie, Michel Allemand, c'est la dimension politique et d'auto-organisation de ces espaces.
Oui, il y a une tradition libertaire qui irrigue très clairement le monde des makerspaces. Alors, je dis une tradition libertaire, c'est compliqué parce que c'est un monde finalement très hétérogène. Un des résultats de notre livre, c'est de dire que au début, il y avait un noyau une espèce d'avant-garde, pourrait-on dire, de ce qu'on appelle dans les représentations un peu collectives les geeks, les nerds, etc., qui ont été à la pointe de ce mouvement. Et on a fait une étude de profils de makers, hein, on a essayé de quantifier. On a recensé 7 profils différents. Alors, on va pas les lister, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce qu'on souhaite dire, c'est que, en fait, aujourd'hui, c'est un mouvement qui s'étend. Et c'est plus simplement limité à une petite élite, qui était une élite plutôt frottée de traditions libertaires, anarchistes, ou avec une forte connaissance informatique. Mais ce qui est vrai, c'est que de cet héritage-là reste la volonté de construire des espaces avec des formes de gouvernance extrêmement originales. Alors Isabelle pourrait en parler mieux que moi, parce que c'est sa spécialité, mais fondée sur des formes de coordination souples, horizontales, et qui donnent sens véritablement à la démocratie en situation. Et de ce point de vue-là, je pense que ce sont aussi des laboratoires du changement social, non pas simplement par le changement technique dont ils sont le creuset, mais par cette volonté d'inventer d'autres formes de collaboration qui mettent l'accent sur des dispositifs de décision comme le consensus, la duocratie, etc.
Laboratoire du changement social, c'est ce que vous avez fait figurer dans le sous-titre de ce livre. Enquête sur les laboratoires du changement social. Makers, on continue de parler des Makers dans la deuxième partie de l'émission après avoir entendu un extrait du 9e album d'un groupe d'Arizona, enregistré cette fois en Californie, Calexico. Thank you.
dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Makers, enquête sur le laboratoire du changement social, un livre signé Isabelle Berry-Bioffman et Michel Lallemand qui sont tous les deux
et Marie-Christine
les
Bureau.
Invités. J'allais l'ajouter. Et également Marie-Christine Bureau qui n'est pas avec nous aujourd'hui. En revanche, c'est Jean-Louis Fréchin qui est avec nous, designer, fondateur de l'agence No Design. J'ai pensé vous inviter, Jean-Louis, pour dialoguer avec ces deux sociologues, tout simplement parce que l'imprimante 3D est au cœur de ce mouvement. Et la première fois de ma vie que j'ai vu une imprimante 3D, c'était dans votre atelier, dans votre bureau. Et j'ai immédiatement fait le lien, sachant par ailleurs que vous suivez tout ça de très près, à la fois matériellement, mais aussi intellectuellement. Comment vous avez vu venir cette quatrième vague dont on parlait, sachant que vous n'aviez pas attendu cette vague pour commencer à produire, à faire du design et à penser le design?
Alors, je vais commencer par une anecdote qui résume un peu ce que je vais dire. Dans votre bouquin, que j'ai trouvé absolument fascinant par l'exactitude de ce que j'ai vécu, puisque j'ai été un des vraiment des pionniers avec Daniel Kaplan de cette circulation des idées entre un continent et un autre. À un moment, vous citez une phrase, et Flore Pellerin qui parle et qui dit « Oui, nous voulons des Fab Labs partout en France. » Et ce tweet est incomplet, puisque la suite était « Et pas d'inquiétude, No Design, le design aura une place de choix. » Et en l'occurrence, dans l'histoire des Fab Labs et dans votre histoire, on parle quasiment pas de design, on parle éventuellement de conception, d'open design, mais pas de design. Alors le design est intéressant pour des raisons historiques. Le design sur le continent européen, c'est un mot italien, le disegno, qui est l'incandescence des choses et la manière de les faire. C'est typiquement l'incarnation des ingénieurs florentins, à la fois artistes et à la fois créateurs du métier d'ingénieur. Le design, il est né de la révolution industrielle. La révolution industrielle a créé les prolétaires. Et donc, les ouvriers étaient privés de la capacité d'utiliser des outils et de changer la destination de ces outils, ce qui est la définition de l'artisan, qui est très important. Et William Morris, qui est un designer plus qu'un auteur, s'est battu à la fois pour l'industrialisation et à la fois pour la place des ouvriers dans cette histoire de la production, et en cela posant une question esthétique qui est rarement posée, jamais, dans les Fab Labs, et sociale qui est très très présente. Donc cette question du rapport entre l'industrie, l'artisanat et la production, elle est née par la réflexion de designers. Alors le Bauhaus est l'histoire d'une tension entre une école de métiers d'art, c'est-à-dire d'artisans qui savent faire des choses et qui savent détourner les outils de leur destination pour faire quasiment des chefs-d'œuvre, et l'école de la création d'une esthétique d'objets produits en série. Et donc d'une décorrélation entre le faire et le projet. L'école d'Ulm a un peu accéléré le processus en créant l'industrialisation, la rationalisation de cette production, le fameux Maschinenbau allemand. Là où c'est intéressant, c'est l'Italie avec une révolte absolue de designers italiens. Alors, on cite toujours Enzo Mari, qui est peut-être le moins intéressant, parce qu'il est dans la caricature de « on permet aux gens de faire des choses en assemblant des bouts de bois ». Des gens comme Sottsass, comme Castiglioni, comme Archistudio, Archizoom, etc., ont vraiment déclaré une sorte de fin de l'industrie et le fait que l'atelier, qui est un mot extrêmement important en Europe, que l'atelier et les artisans étaient l'espace où on pouvait innover et créer les conditions d'objets avec une âme, avec un sens, et éventuellement la relation à celui à qui il est destiné. Donc on voit que le design dans cette histoire de Fab Lab, il est important. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est l'absence totale de récit européen dans cette affaire, comme si le numérique n'avait pas d'histoire et pas de culture. Il est évident que les Fab Labs viennent d'une envie de sortir de ce monde, vous l'avez très bien dit, de bits et de retourner vers une sorte de... Et entre l'Europe et les États-Unis, une dimension très libérale, libérale, d'autonomie absolue à l'américaine, et très marxiste en Europe, puisque les Fab Labs sont certes libertaires, mais ils sont surtout néo-marxistes, puisqu'il y a l'espèce de fantasme de dire « on va redonner au peuple les outils de production duquel la grande industrie, la privée ». C'est passionnant. Mais je pense qu'on pouvait faire plus. Et les rêves qu'on a eus avec Kaplan, avec Lensi, dès 2010, on a amené Missika en Hollande, dès 2010, Futur en scène 2012. La question des usages de ce qu'on produit dans les Fab Labs et la question de l'esthétique produite par les Fab Labs est totalement absente. Les Fab Labs produisent des commodités, c'est-à-dire qu'on ouvre ce qui est ouvrable, on le reproduit, On le fait soi-même, ce qui est d'un point de vue social passionnant. Mais la question, vous posiez la dimension, Sylvain, de comment ça peut changer l'industrie, la production. J'ai créé le premier Fab Lab Pro en Europe avec EDP au Portugal. Ce qui s'y passe est absolument fascinant dans le rapport à ce que font les ingénieurs aujourd'hui. Et il y a un sujet qui a été totalement zappé, c'est plus que des gens de... Alors, je ne sais pas s'ils sont bourgeois, grands bourgeois, de classe moyenne, s'amusent effectivement à jouer aux prolétaires, à fabriquer des choses. On n'a pas fait de passerelle avec l'éducation professionnelle et technique en France. Il n'y en a pas. Il y a eu une expérience qui a explosé au lycée Vauban, en Bretagne, les fabriques du Ponant avec la Maison du Livre, donc des libristes français, une association populaire scientifique, les Petits Débrouillards, dans le lycée Vauban, qui est un des plus beaux lycées techniques français. Bon, ça a explosé, c'est bien dommage, c'était la seule. Or, les Fab Labs doivent servir à changer le regard sur finalement les arts et métiers, puisque c'est votre maison et c'est un des grands inspirateurs de cette chose-là, en tout cas côté design, hein. Le musée des arts et métiers, c'est une inspiration absolue. On a loupé ces deux sujets côté... on appelle Fab Lab Pro ou Fab Lab Éducation.
Alors voilà la réaction du designer, je sais pas, et Michel Lavant.
En deux mots, d'abord merci beaucoup pour cette réaction. Alors, je partage complètement la nécessité de revenir au questionnement sur le rôle de l'atelier. Je le partage d'autant plus que la sociologie du travail a toujours été fascinée par cette idée que redonner du sens au travail, ça passe par un espèce de retour à l'atelier. Alors, je suis pas sûr que tous mes collègues partageraient ça, mais en tout cas, c'est très clair que, y compris, à commencer par George Friedman, il y avait cette idée que l'atelier était ce lieu où les travailleurs possédaient en fait tous les outils de production et leur réelle autonomie. Et on voit bien que les Fab Labs et les Hackerspace, d'une certaine manière, reprennent cette veine critique. En revanche, je vous suivrai pas sur le fait de dire qu'il y a une forme de marxisme qui irrigue. C'est vraiment un impensé absolu, parce que ce qui est beaucoup frappant dans le mouvement Maker, c'est la difficulté à mettre en rhétorique, à mettre en mots des vrais projets politiques. On sent bien qu'il y a une dimension politique, mais c'est pas mise en mots à la façon dont nous le faisons, vous et moi, et c'est d'autant plus difficile que le mouvement est quand même hétérogène, et qu'il y a une partie quand même de ce mouvement Maker qui est quand même attirée malgré tout par les sirènes du marché, et qui voit ces tiers-lieux comme des espaces de création au profit de capacités de renouvellement de la créativité, avec derrière des formes de développement marchand. Donc il y a des tensions, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est une forme de néo-marxisme. Je vais peut-être passer
Isabelle Berbier.
Oui, alors pour compléter ma réaction aussi, d'abord merci beaucoup pour ce panorama et pour cette lecture du livre, bien sûr. Alors moi je trouve très intéressant votre réaction sur les Fab Labs, c'est parti de Fleur Pellerin, etc. Parce qu'on voit bien qu'il y a une question de réorganisation de toute une série de sphères, le design, les ingénieurs, les écoles techniques, l'éducation, qui sont en mouvement aujourd'hui. Et que finalement, quand un monde est en mouvement, il y a des rapports de force aussi, et il y a des enjeux qui... Vous dites, j'ai perdu. Moi, je ne suis pas sûre qu'on a perdu ou qu'on n'a pas gagné. Mais en tout cas, ce que vous dites, entre les lignes, c'est qu'on fait bouger des frontières entre des sphères, je reprends les sphères de Weber, entre des sphères d'activité qui sont complètement transformées aujourd'hui. Dans votre camp, il y a le mouvement STEAM, S-T-E-A-M, aux États-Unis, Rhode Island University, vous connaissez ça, 10 ans, etc. Ils sont en train de gagner. C'est-à-dire qu'à Cambridge ou à Boston, aujourd'hui, les écoles d'architecture, les écoles de design et les écoles d'ingénieurs travaillent ensemble, font des expositions ensemble, font des projet ensemble au MIT, tout étudiant fait rentrer au musée d'art, etc., ses projets de fin d'études. Donc le lien entre art et technologie, moi je le vois plutôt être très puissant aujourd'hui, puisqu'on a remplacé STEM, science, technologie, engineering et maths, par STEAM. Le A, c'est art, arts. Et donc les enseignements massivement de STEM aujourd'hui introduisent l'art, les écoles d'architecture et le design. Donc moi, je vous trouve pressé en France. Maintenant, c'est intéressant parce qu'en France, l'enjeu ou les lignes de front ne se jouent pas avec le design de façon centrale. C'est vrai aux États-Unis, pas en France. Donc ça, c'est une question. Et c'est une question intéressante pour la sociologue des organisations de l'économie et aussi des sphères d'activité que je suis. Et je vous la retourne.
Voilà. Jean-Louis Fréchin.
Moi personnellement, je fabrique, je suis très autonome et j'ai beaucoup d'empowerment, donc j'ai pas de problème particulier. C'est plutôt pour l'endroit où j'habite que ça m'intéresse. L'atelier dans le siècle des Lumières était associé à deux autres figures qui étaient le salon et le cabinet de curiosité, qui est la manière dont on a construit le manifeste des ateliers quand en en 2000. On a réveillé cette école prétendument prestigieuse qui l'aime et qui s'était un peu endormie sur les raisons pour lesquelles elle était fondée. Une phrase de Jean-Louis Monzat de Saint-Julien que j'adore qui dit « L'objet scientifique en France, toujours raisonné, toujours spéculé, mais jamais touché, qui va de la loi scientifique à ses applications. » C'est-à-dire que cette école a été créée pour faire que le prototype devienne l'outil de conception en 80, à partir de projets de...
Cette école dont vous parlez, c'est l'ENSI.
C'est l'ENSI des ateliers, tout à fait, créé par Patrick Bouchain et inspiré par Jean Prouvé, qui est peut-être les modèles dont on a besoin en France. Parce que ce que vous me dites est très intéressant. Le combat de John Medda, je le connais bien, mais il est aux États-Unis. Nous, on est en Europe. Et cette généalogie européenne, on a du mal à la construire. Il n'y a pas de récit. Il faut se rappeler, par exemple, que l'aviation en Europe a été créée non pas par des scientifiques, mais par un type qui sortait des Beaux-Arts et qui a bricolé des avions. La reproduction de l'atelier était au musée du Bourget, Gabriel Voisin, et qui a, de manière telle que vous le décrivez dans le livre, avec un réseau de gens à Issy-les-Moulineaux, inventé l'aviation. Donc ce modèle inspirant, on l'a, et les cabinets de curiosité et les salons sont aussi des modèles structurants chez nous. Alors, si les Fab Labs n'arrivent pas, effectivement, à théoriser leurs propres pratiques et là où ils veulent aller, certains y arrivent très bien, notamment Artilec à Toulouse, qui est un endroit juste incroyable et extraordinaire, c'est bien dommage. La question européenne dans cette affaire-là, sachant que, vous le dites tellement bien dans le livre, les Fab Labs en France sont extrêmement différents de ce qu'on voit aux États-Unis. Ils sont politisés, ils sont extrêmement sociaux, ils relèvent d'une tradition de la loi d'association française républicaine très puissante. Ils attendent beaucoup de l'État. Ce que je dis simplement quand je dis je suis un peu déçu, c'est que les grands sujets européens et français, on est un peu passé à côté, fasciné qu'on est par les États-Unis, qui sont fascinants, je vous le concède. Mais on a une histoire propre qui est tellement extraordinaire, qui peut nous permettre une singularité au sens européen, qui nous permet de produire des choses intéressantes. Et aujourd'hui, dans les Fab Labs, on ne fait pas vraiment de choses intéressantes.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a un bricolage français, justement, de ces normes américaines, de ces outils américains. Je pense que, justement, ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, c'est qu'il y a une façon très française de s'emparer de la charte. Au contraire, je pense qu'il y a une façon très nationale, très française, de rebricoler ça pour faire bouger des frontières. Et les frontières, c'est celle de l'éducation, celle du design et celle du rapport à l'État également.
Oui, dans l'histoire européenne, je pense qu'il faut mentionner un acteur qui était déterminant, qui est le Chaos Computer Club. C'est-à-dire que c'est quand même le hackerspace, fondé au début des années 80 en Allemagne. Et c'est lui qui a donné le là pour beaucoup de mouvements. C'est-à-dire que vous prenez le premier hackerspace en France, le TMP Lab, il a été fondé suite à la participation d'un de ses fondateurs à un des camps organisés par le CCC. Même chose pour Noise Bridge aux États-Unis. Donc, il y a eu quand même une origine allemande extrêmement forte.
Je suis d'accord, si vous voulez. Il me semble important de ne pas considérer que ces questions-là sont nées avec le numérique. Donc, le Computer Club, c'est important, mais moi, mon rôle modèle à moi, c'est plutôt les sans-filistes. Donc, il y a des exemplaires absolument formidables au Musée des Arts et Métiers. Ces gens qui ont hacké les radios militaires pour inventer le média sur lequel on est aujourd'hui. Voilà, ça, c'est les choses qui m'inspirent plus qu'une petite culture numérique, qui est une nouvelle révolution industrielle, donc qui est importante, mais qui manque de mise en perspective sur un temps long. Qui m'inspire.
On a besoin d'archéologie, des médias. Merci Jean-Louis Fréchin pour cette lecture et cette réaction au livre coécrit par Marie-Christine Bureau, Isabelle Bérébi-Hoffmann et Michel Lallemand, Makers, enquête sur les laboratoires du changement social. On trouve la référence sur la page de la suite dans les idées, une page où vous pouvez réécouter l'émission en streaming ou vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet, à la technique, Bruno Mourlan, à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.